Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit aujourd'hui Jean-Lucien Boussap, autorité morale du courant des démocrates rénovateurs CDR et coordonnateur de la coalition des démocrates CODE. Il est également ministre d'État en charge du commerce extérieur. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions liées au processus électoral, à la candidature de Ramazani Shadary, à la candidature commune de l'opposition et à toutes les questions touchant aux élections transparentes, crédibles et apaisées. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Jean-Lucien Boussap, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment vous allez?
Très bien.
La campagne électorale a été lancée le 22 novembre par le président de la CENI, mais selon plusieurs opposants, le FCC, lui, était déjà en campagne et en utilisant les moyens de l'État, disent-ils.
Je crois que les gens racontent des histoires. Il ne faut pas toujours prétexter lorsque on n'est pas capable de pouvoir aller très loin. Je pense que la campagne électorale a été lancée et je ne suis pas sûr qu'au bout d'un jour simplement, qu'on puisse noter que le FCC est en avance par rapport à la campagne et qu'il userait de moyens de l'État. Non, je pense qu'aujourd'hui, les débats et l'enjeu principal aujourd'hui, c'est qui présente quel projet et pour quel Congo et qui est à même de sortir le Congo de la situation dans laquelle il se trouve autant que qui est à même de pouvoir permettre aux Congolais de vivre une vie bien meilleure qu'aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau du FCC, nous avons présenté par notre candidat interposé, M. Emmanuel Ramazani Shadary, le projet, le programme du candidat. Et comme je l'ai dit à d'autres occasions, ce programme est structuré, il est cohérent, il est ambitieux, il met au cœur de l'action publique, le développement économique et le retour de la dignité du Congolais. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Au bout d'un jour, simplement, des campagnes électorales, on ne peut pas aller en conjecture. Je suis désolé.
Alors, Ramazani Shadary, le candidat du FCC, vous le dites, a présenté un programme de 86 milliards de dollars étalé sur 5 ans. Certains opposants le jugent pas suffisamment ambitieux.
Oh, je ne sais pas de quoi on parle.
Pour un pays aux dimensions de la RDC.
Bon, je sais qu'il y en a qui ont proposé 800 milliards de dollars. Je pense que c'est surréaliste, tout simplement. Le programme de Emmanuel Shadary est ambitieux, mais il a le mérite d'être réaliste. Il est ambitieux parce qu'il porte au premier plan ce que lui-même a dit, la restauration de l'autorité de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Vous savez qu'aujourd'hui, on établit une différence entre le pays qui se développe, non pas simplement par rapport à leur dotation naturelle, mais surtout par rapport à leur capacité de pouvoir bien gouverner. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on mesure la différence de croissance économique et de développement entre les nations parce qu'on appelle capital intangible, la qualité de la gouvernance, la qualité des institutions, la lutte contre la corruption, la lutte contre le détournement des deniers publics, une justice injuste, le respect de l'état des droits. Et le candidat Shadary place cette question au cœur de la priorité. C'est même le déterminant principal qui enclenche un projet économique crédible. Il dit sur le plan économique, c'est une économie diversifiée. Non, je pense qu'aujourd'hui, dire que ce programme n'est pas ambitieux, c'est vraiment se tromper de lecture. Au contraire, j'ai vu d'autres candidats parler de 100 milliards de dollars, etc., sans l'avoir structuré correctement. Non, le programme du candidat Shadary est très, très, très structuré. Il est cohérent, il est ambitieux. Simplement, il a le mérite d'être réalisé. Voilà.
Ramazani Shadary se présente comme le candidat de la continuité. Va-t-il pérenniser la misère des Congolais comme le soutiennent les opposants?
Mais c'est pas ce que Ramazani Shadary a dit. Le président Ramazani Shadary a dit que, il y a des acquis du passé. Aujourd'hui, l'alternance démocratique est devenue une réalité parce qu'il y aura un autre président de la République après le 23 décembre 2018. Ce n'est pas un pas de géant dans la démocratie congolaise. C'est un pas des géants. Maintenant, entre les acquis du passé et la projection de l'avenir proche, il y a une rupture. Lorsqu'il met au cœur de l'action, lorsqu'il fait même l'autopsie de la situation actuelle, Il propose de lutter contre la corruption, même au niveau des cours des tribunaux. Il suggère de lutter contre le détournement de deniers publics. Il donne une place à la sanction en souhaitant mettre fin à l'impunité. Il pose le problème d'une économie diversifiée, comme j'ai dit tout à l'heure, et compétitive. Il parle de la lutte contre la pauvreté et la garantie de l'accès aux services publics de l'État. Qui dit mieux? Mais lorsque le candidat du FCC, il parle du rôle géostratégique de la République démocratique du Congo, un pays avec 9 voisins, qui doit assumer ses rôles. Non, dire que ce programme n'est pas un programme de rupture et que ce n'est qu'un programme de continuité, ce serait vraiment se tromper. Et je pense que beaucoup n'ont pas lu.
Lutter contre la corruption, contre l'impunité, on sait que l'impunité a été parmi les faiblesses du régime Kabila.
C'est vrai. Depuis 60, l'impunité a été la plus grosse faiblesse. Autant que la corruption est l'une des grosses faiblesses aussi. Et ces faiblesses, considérées comme un capital intangible, ont affecté négativement le développement économique de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas parce que ça a toujours été une faiblesse que ça doit continuer à rester une faiblesse. À un moment donné, des hommes arrivent au pouvoir et un homme portant un projet de gouvernance d'un pays doit dire « je mets fin à cette affaire ». Parce que justement, si on n'a pas réduit drastiquement la corruption, sinon si on ne l'a pas éradiqué, si on n'a pas mis fin à ces maux qui ont rongé la société en termes de mauvaise gouvernance, vous n'aurez pas de développement. Il faut commencer par là et pas ailleurs.
L'insécurité gangrène la RDC. Voilà 4 ans qu'on tue, qu'on massacre à Beni et le gouvernement est jusqu'à ce jour incapable de mettre fin à cette situation. La campagne a commencé. Il y a certains élus de Beni, par exemple, qui demandent qu'il n'y ait pas élection dans cette partie du pays parce que le défi sécuritaire est très énorme.
Et même sur la question sécuritaire, il faut avouer que s'agissant de Beni et d'autres coins du pays où il s'est posé quelques problèmes, je voudrais ici profiter de l'émission pour envoyer un message clair à mes compatriotes de Beni, que nous sommes de cœur avec. Et le gouvernement agit dans le sens de pouvoir mettre fin à cette insécurité devenue presque une spirale. Donc, les décisions sont prises à cet effet. Simplement, lorsque certains députés lèvent le ton pour dire les conditions à Beni ne permettent pas d'aller aux élections, mais la CENI a répondu à la question. J'ai suivi sur Radio Okapi que le président de la CENI a dit qu'après concertation avec le gouverneur, après avoir échangé avec tous les autres services concernés par la question de sécurité, que les élections auront bel et bien à Beni. Donc, qui dit mieux?
Une question que le gouvernement n'a pas pu résoudre en 4 ans, c'est en 1 mois, en 2 mois, qu'elle va le résoudre.
Non, mais écoutez, les questions sécuritaires doivent aussi être appréciées dans une espèce de dynamique. Vous savez, aujourd'hui, on peut se réveiller, il y a un incident à gauche, un incident à droite, c'est pas pour autant que l'effort qui a été fourni pour que l'est du pays qui était complètement dans une situation de sécurité assez difficile à gérer, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de progrès à l'est du pays. Et beaucoup de progrès. La situation de 2006 n'est pas celle de 2011. La situation de 2011 n'est pas celle de 2016. Celle de 2016 n'est pas celle de 2018. Les poches d'insécurité ont été réduites de façon sérieuse.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Jean-Lucien Boussa, autorité morale du courant des démocrates rénovateurs CDR et coordonnateur de la coalition des démocrates CODE, également ministre d'État chargé du commerce extérieur. Le président de la CENI, vous l'avez évoqué, lorsqu'il lançait la campagne électorale, a balayé d'un revers de la main les défis sécuritaires, les défis financiers et logistiques. Que répondez-vous à certains compatriotes qui, jusqu'à ce jour, continuent à douter qu'il y aura effectivement élection le 23 décembre 2018 ?
Un auteur a dit « attendre et d'agir avant d'avoir toute la lumière », c'est se condamner dans l'inaction. Ceux qui veulent l'inaction trouveront des prétextes. Ceux qui ne veulent pas aller de l'avant donneront des raisons. Ceux qui sont assurés de perdre les élections, ils vous diront qu'il y a ceci, qu'il y a cela, alors que nous sommes en train d'aller inexorablement vers le 23 décembre 2018. La certitude de la tenue effective des élections n'est plus à démontrer. Ceux qui parlent sont tous des candidats. Et ceux qui parlent sont sûrs que tout en parlant,
ils vont aller en campagne électorale pour préparer leurs électeurs à leur élection, passez-moi l'expression. Arrêtons de distraire le conflit congolais. Arrêtons de considérer qu'il n'y a pas d'avancée dans le processus démocratique, dans le processus électoral. Non, que c'est faux. Les élections vont avoir bel et bien lieu le 23 décembre 2018.
Pour ne prendre que les défis sécuritaires, 2 345 000 km², près de 80 000 bureaux de vote, c'est énorme. Est-ce que la CENI saura être dans le temps? Vous, vous êtes membre du gouvernement, les financements et tout, est-ce que tout est prêt?
Mais le pays est énorme. Mais le même pays a connu une expérience au moment le plus difficile de son histoire. Les élections 2006 se sont déroulées dans les conditions, on peut dire, plus difficiles qu'aujourd'hui. Les défis sécuritaires étaient plus immenses en 2006 qu'en 2018. Les défis sécuritaires étaient presque les mêmes aussi. Mais les élections ont eu lieu. La CENI nous dit qu'elle est prête. C'est le seul organisme qui peut nous dire qu'il y aura effectivement élection, oui ou non. Le président de la CENI confirme qu'il y aura élection. Mais pourquoi chercher ailleurs? En tout cas, la CENI est compétente pour nous donner les réponses aux questions que vous me posez. Je ne suis pas compétent. En tant que membre du gouvernement, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a mis les moyens régulièrement à la disposition de la CENI. Le gouvernement et l'Assemblée nationale, ou je m'y le Parlement, ont réussi à lever les contraintes légales qui se posaient à l'époque. Aujourd'hui, la question de la machine à voter, qui était devenue une question au cœur du débat, pour rien, cette question n'est plus fondamentalement au cœur du débat. Tous les candidats sont prêts à aller aux élections. Mais ils vont aller aux élections avec la machine à imprimer le bulletin de vote qu'on appelle faussement machine à voter.
Martin Fayoulou a été désigné candidat commun de l'opposition le 11 novembre dernier par cette leader de l'opposition, avant que deux d'entre eux ne se désistent, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Martin Fayoulou ne jure, lui, que par des élections sans machine à voter et sans les 10 millions d'électeurs qu'il qualifie de fictifs.
Je commente pas les propos de Martin Fayoulou qui a beaucoup changé. Chaque fois, on n'ira pas aux élections et puis on va aux élections. Tel ne va pas se passer et puis tel se passe. On ne va pas aller aux élections avec la machine à voter, mais on est candidat des élections qui vont se tenir avec la machine à voter. J'aimerais bien voir ce qui va se passer le 23 décembre 2018. Je l'attends au tournant. C'est tout.
Peut-on considérer que vous avez l'avantage d'avoir été à l'opposition, maintenant au gouvernement, et que vous connaissez la tactique de vos anciens collègues?
Non, pas du tout. Je connais les acteurs et leur jeu. Ce qui est clair, c'est que le 23 décembre 2018, il y aura élection. Les partis politiques de cette frange d'opposition qui n'est pas au gouvernement ont des candidats députés provinciaux et des candidats députés nationaux. Vous allez bien voir, et j'ai vu les affiches dans les rues de Kinshasa, où ces partis affichent leurs candidats. Mais ils vont aller à quelle élection? N'est-ce pas cette élection avec la machine à voter? Ils vont aller aux élections où c'est? Non, mais arrêtons de raconter des histoires. Non! On est candidat, on dit qu'on est candidat commun, mais il y a maintenant deux candidats communs, ok? Des deux logiques communes, ou des deux logiques complètement différentes. Arrêtons de parler, arrêtons des histoires. Ce qui est vrai, est qu'à cette date, les élections sont irréversibles. La machine à voter, faussement nommée machine à voter, est une machine à imprimer le bulletin de vote. Point barre. Maintenant, j'étais à leur place, je n'aurais pas déposé ma candidature, parce que la CENI tient la machine à imprimer le bulletin de vote. Et voilà. Mais on ne peut pas être candidat, dire qu'on est candidat de ceci et de cela, et prétendre aller aux élections, et en sachant très bien que ça sera avec la machine à imprimer le bulletin de vote. Là, appeler la machine à voter ou à imprimer le bulletin machine à voler, c'est quand même au-delà de ce qui est minimum à pouvoir dire. Non, attendez, il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser lorsqu'on est parent.
Ne fallait-il pas un consensus autour de cette question? Parce que certains membres de la classe politique, de la société civile, continuent à réclamer un consensus sur cette machine à voter.
C'est un débat devenu anachronique. Complètement anachronique et dépassé. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale. Vous savez que pour commander le bulletin de vote, d'après certains acteurs pour qui j'ai entendu, ouais, on veut le bulletin papier, etc. Mais ils savent très bien. Entre le moment de la passation de la commande du bulletin de vote pour les trois élections et le jour où le bulletin de vote arrive dans le centre de vote, c'est 104 jours. Ils doivent nous dire ce qu'ils veulent. où on veut les élections le 23 décembre 2018, ceux pour lesquels nous sommes tous engagés dans le dialogue de la Saint-Sylvestre, et tout ce monde a signé, où on ne veut pas des élections, étant entendu qu'on est sûr de les perdre. Alors arrêtons de distraire l'opinion publique. Allons de l'avant. Nous avons obtenu le plus important, cher ami. Nous avons tous obtenu le plus important de notre action politique, à la fois dans la rue et même dans les discussions politiques. C'est l'alternance démocratique. C'est la victoire de tout le monde. Et c'est la plus grosse victoire que nous ayons obtenue. Alors, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de transformer cette victoire en véritable réalité quotidienne. Et ça, ça ne peut pas être possible avec ceux qui veulent reporter les élections, alors qu'ils n'ont pas la compétence de pouvoir les reporter. Allons aux élections pour consacrer effectivement cette victoire où le peuple congolais va vivre pour la première fois de son histoire depuis 1885, l'alternance démocratique à la tête de l'État.
En se donnant tous les moyens, on l'a évoqué à un moment dans cette émission, les autres candidats disent être en total déséquilibre par rapport à celui du FCC, Ramazani Shadary.
Ben, je pense que lorsqu'on veut être candidat, député national, député provincial, candidat président de la République, on se prépare depuis. C'est pas le un mois de campagne électorale qui va déterminer que tel candidat a fait du bon travail ou pas. La campagne électorale, certes, c'est un moment où chacun fait sa publicité, mais la victoire du candidat s'est construite bien avant. Il ne faut pas attendre le jour de la campagne électorale pour dire « je vais gagner ». Non, ça, vous vous trompez. Et chercher des prétextes. Non. Aujourd'hui, je pense que ceux qui ont l'ambition ou ceux qui ont décidé d'être candidat président étaient conséquents. Dès lors que je suis candidat président, donc j'assume la suite des événements. Je précède les événements. Je ne les subis pas. Je pense que la différence entre la frange de l'opposition qui a accepté d'être au gouvernement d'Union nationale et celle qui est restée en dehors, c'est que celle qui est entrée au gouvernement a été capable des anticipations rationnelles. Elle a précédé les événements. Elle a prédit les faits. Et les faits se sont matérialisés. Les autres sont restés dans la passion. Ils n'ont pas précédé les événements et ils les subissent tous les jours. Et jusqu'au jour où, le 23 décembre 2018, ils vont subir la défaite.
Lorsque vous êtes entré au gouvernement, vous avez été qualifié de traître. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez suffisamment à l'aise dans la peau d'un membre du gouvernement, de quelqu'un qui a longtemps critiqué le président Kabila et qui aujourd'hui travaille à ses côtés?
Je suis très à l'aise. Pourquoi? Ce n'est pas le premier modèle que les Congolais aient vécu. Le 1 plus 4, qui était dedans dans le 1 plus 4? Et qui était le chef de l'État, n'est-ce pas Joseph Kabila? C'est pas pour autant qu'il s'est gosse d'avoir bien travaillé dans les 1 plus 4. Non, pas du tout. Le deuxième modèle pendant cette période, c'est l'actuel gouvernement d'Union nationale, qui est le produit d'un accord politique entre l'opposition et la majorité présidentielle pour répondre aux questions que posait la crise qui se profilait à l'horizon, à savoir l'inquiétude sur le respect de la Constitution dans ses dispositions intangibles, la réalisation effective de l'alternance démocratique et la tenue effective des élections. C'est ce pour lequel nous sommes tous mis d'accord. Tous alors. Personne n'était... Et vous connaissez, vous avez l'accord global et inclusif. Tout le monde a signé. Là où on est entré en désaccord, c'était les ambitions personnelles. Certains ne voulaient pas prendre la primature selon le mode qui a été prévu en termes de processus, et d'autres pensaient que non, nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas été au dialogue pour résoudre les problèmes d'individus. On a été au dialogue pour répondre aux questions que la société Congo nous posait. Et aujourd'hui, ce qui nous avait accusé d'avoir donné des béquilles au président Kabila, ce qui nous avait accusé d'avoir trahi je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils doivent avoir le courage de nous donner raison. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Mais on a obtenu ce que tous les Congolais voulaient, l'alternance à la tête de l'État. Après le 23 décembre 2018, le président Kabila ne sera pas à la tête de l'État, ça sera un autre président qui sera issu des élections. Mais nous avons tout gagné. Je pense qu'ils ne sauront pas nous regarder dans les yeux. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de battre maladroitement en retraite.
Grande interview reçoit Jean-Lucien Poussa, autorité morale du courant. Les démocrates rénovateurs CDR et coordonnateur de la coalition des démocrates CODE, également ministre d'État chargé du commerce extérieur.
On se souvient de Jean-Lucien Poussa, de la dynamique de l'opposition, qui, avec ses anciens compagnons de l'opposition, ont mené des gens dans la rue, il y a eu des morts, des répressions sanglantes. Est-ce que vous n'avez pas votre conscience chargée par rapport à tout ça?
Mais c'est pour cette raison qu'à un moment donné, nous avons fait un état des lieux. Nous avons fait l'évaluation de notre action dans la rue. C'est vrai que cette action dans la rue a porté. Par exemple, le projet de loi sur le recensement qui devait durer 4 ans a été retiré du Parlement. Ça, c'était positif. Et c'est lorsque nous avons tous été ensemble avec les amis. Mais après, il est apparu que les actions de rue ne nous amenaient pas à une réponse satisfaisante, adéquate, rapide. Il a fallu des discussions politiques. Et nous avons fait ces choix. Ce choix du dialogue nous a permis d'obtenir ce que la rue ne nous a pas donné. Et aujourd'hui, nous en sommes à un mois seulement de la tenue des élections, ceux pour lesquelles nous nous sommes battus. C'est vrai que ce qui s'est passé n'était pas facile, mais on n'avait pas de choix en ce moment-là. Mais si vous ne faites pas l'évaluation d'une action, vous ne savez pas vous projeter dans le futur. Nous avons opté pour les dialogues et les dialogues nous ont tout donné.
Martin Fayoulou, candidat à commun d'une frange de l'opposition, Vital Kamerhe qui s'est désisté en faveur de Félix Tshisekedi, ces deux candidats de l'opposition ne vont-ils pas prendre en étau Ramazani Shadary, le candidat du FCC?
D'abord, même s'ils avaient un seul candidat, ils ne gagnaient pas. C'était clair.
Pourquoi?
Ben oui, mais parce que le FCC, c'est une grosse machine. Le FCC, c'est aussi une frange de l'opposition assez représentative de la société Congo. Mais c'est en même temps l'actuelle majorité présidentielle. Ces deux groupes se sont mis d'accord pour porter un projet commun. Et c'est des groupes représentatifs dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, où nos amis déjà, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont aller aux élections. Certains candidats se disent, oui, je vais aux élections, mais sans la machine à voter. On ne sait pas où ils veulent, ce qu'ils veulent, pardon. N'est-ce pas? Et donc déjà, cette espèce de désorganisation ne permet pas de dire que ces gars vont gagner. Hein. Je suis désolé. Maintenant, ils ont deux candidats. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas un candidat commun. Arrêtons de parler du candidat commun. Il y a deux candidats majeurs, deux candidats au niveau de l'opposition. Eh bien, c'est aussi l'expression de la démocratie.
Donc vous pensez qu'ils vont plutôt disperser leur voix?
Le FCC a un seul candidat et j'ai la conviction que, et à la lumière du projet de notre candidat, j'ai la conviction que le peuple va faire confiance au candidat FCC. L'autre groupe n'étant pas suffisamment organisé et malheureusement, en n'étant pas organisé, on ne peut pas projeter un pays qui est organisé. Quand un groupe politique n'est pas déjà organisé en son sein, comment peut-il prétendre organiser le pays et l'État? C'est pas possible. On ne peut pas faire confiance à un groupe qui n'est pas capable de se mettre d'accord sur l'essentiel. Non. Quel Congo nous voulons demain? Nous voulons restaurer la dignité du peuple congolais. Nous voulons assurer le développement économique et social du pays. Mais ça doit être avec un groupe qui est d'accord sur un projet, sur un avenir. Mais pas avec un groupe qui est divisé, même sur des questions de positionnement personnel. On l'a observé lors du dialogue de la Saint-Sylvestre, où ils ne se sont pas mis d'accord sur la primature. On l'observe aujourd'hui, où ils ne sont pas d'accord sur les candidats présidents de la République. Est-ce qu'un tel groupe peut-il prendre la responsabilité de gouverner le pays? Non.
Une opposition forte ne donnerait-elle pas lieu à une majorité forte aussi?
Mais bon, aujourd'hui on n'en est pas là. On n'en est pas là, on a des candidats faibles. De l'autre côté, de mes amis de l'opposition, on a des candidats faibles et divisés.
Ils disent la même chose de Ramazani Shadary.
Mais on va voir dans les urnes comment ça va se passer. La vérité est que, un groupe divisé ne peut pas atteindre le résultat avec beaucoup d'efficacité.
Ils disent que vous avez la machine à voter, qu'ils appellent à voler, que vous allez tripoter des résultats.
J'étais à l'époque membre du MLC, secrétaire général adjoint, responsable des stratégies, j'étais combattu sérieusement.
Mais lors des élections, j'ai mis en place des mécanismes avec des témoins qui m'ont permis de sécuriser mes résultats. J'étais le meilleur élu de la province, de la grande province de l'Équateur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la loi donne la possibilité à chaque candidat de pouvoir avoir ses témoins partout. Et mon expérience d'élu du peuple, deux fois, me donne à penser que lorsqu'on a ses témoins, on sécurise ses résultats.
Alors, en faisant recours à l'appui logistique de l'armée, vos anciens compagnons de l'opposition, pour certains, ont dénoncé la militarisation du processus électoral.
Alors, on peut parler de la militarisation des soins médicaux en France. On peut parler de la militarisation des soins médicaux aux États-Unis, lorsque les hôpitaux les plus performants sont tenus par des militaires. C'est cela ? Non ! C'est des biens publics. Le véhicule de l'armée, c'est un bien public, autant que le véhicule de l'administration publique. Lorsque le pays a besoin de ces outils et qu'on les met à la disposition d'un service public qui est en déficit et en demande, je ne sais pas comment on va parler de la militarisation, s'il vous plaît. Il faut arrêter ces discours-là, qui ne passent pas, par ailleurs. C'est pour monter les gens inutilement. Mais non, aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne électorale. Au niveau présidentiel, c'est le débat des projets contre projets. Qui propose quel projet de société pour le pays de demain? Mais qui a la capacité de pouvoir porter ces projets? Mais il est porté par quel groupe? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les FCC ont un projet, je l'ai dit, ambitieux, cohérent, structuré, réaliste, prenant en considération les aspirations profondes du peuple congolais, qui résumées en ceci, le développement économique et la restauration de la dignité du peuple congolais. Ces projets existent. Il y a un homme qui est capable de les porter. C'est l'honorable Ramazan Shadary. C'est un intellectuel dont on ne peut pas discuter sur ses qualités intellectuelles. Ça, c'est pas discutable. De deux, on ne peut pas discuter sur son expérience. Quand on a été trois mandats successifs député national, quand on a été gouverneur, ministre de l'Intérieur, je pense qu'on a suffisamment d'atouts pour donner au pays ce qu'on a de mieux.
Monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa, cette émission se termine. Un mot à tous ces millions de Congolais qui vous suivent partout à travers le pays et à l'étranger.
Je dis à tous mes compatriotes congolaises et congolais que nous nous sommes battus pour obtenir l'alternance à la tête de l'État, le respect de la Constitution de la République, la certitude de la tenue des élections. Ces trois choses, aujourd'hui, deviennent des acquis. Ce qui reste à rechercher maintenant, c'est l'alternative crédible. Parce que nous avons des défis sécuritaires, nous avons des défis économiques, nous avons des défis sociaux, nous avons des défis de gouvernance à pouvoir réaliser. Nous devons donc être du côté de ceux qui ont proposé ou ceux qui proposent un vrai projet pour le pays. Il ne faut pas être dans le vent. Lorsqu'on est dans le vent, on a le destin d'une feuille morte qui peut tomber n'importe où.
Jean-Lucien Boussa, ministre d'État chargé du commerce extérieur, merci d'être venu à Grande Interview.
Je vous remercie.
Grande Interview s'est terminée pour aujourd'hui. Kina Salama était à la supervision. Michel Kifindangoy à la coordination. Moi, c'est Alain Rongouché. Je vous l'ai présenté. Merci de votre attention. Au revoir.